France Inter.
France Inter. Le 18-20. François Geffrier.
C'est quasiment inévitable, le jour de Noël, on a des souvenirs qui remontent, les Noëls passés, ceux de votre enfance, ceux où vos enfants étaient plus petits, plus sages qu'aujourd'hui, enfin, c'est le souvenir que vous en avez. Les cadeaux que vous aviez reçus à l'époque, un concert d'un artiste qu'on n'entend plus si souvent aujourd'hui, mais dont vous fredonnez les tubes sous la douche, une console de jeu qui a pris la poussière au grenier, mais que vous adorez. Et puis ces films qui repassent inévitablement au moment de Noël, Le Père Noël est une ordure, Love Actually, Maman j'ai raté l'avion, et aussi La Grande Vadrouille, Harry Potter ou Bienvenue chez les Ch'tis, on les connaît pas. Par cœur. Et alors, on les regarde quand même. Les sketchs, les inconnus ou des nuls, ceux de Caméra Café ou d'un gars une fille, on se fait les répliques avant qu'elles n'arrivent à l'écran, on adore. Pourtant, le temps a passé, il y a eu bien d'autres choses, alors pourquoi la nostalgie nous envahit-elle? Est-ce que vous aimez ce sentiment comme un doudou qu'on ressort du placard et qui nous fait du bien? Ou est-ce que ça vous paralyse, ça vous donne le vertige du temps qui passe? Bref, la nostalgie est-elle une passion triste ou heureuse? En tout cas, c'est un carton total quand il s'agit de faire du business. On voit renaître des émissions de télé qui ne marchaient plus, des tournées de concerts centrées sur les années 80, des soirées à thème 70s ou années 2000, les films qui avaient fait un carton ressortent en version restaurée ou en remake, et on rêve de s'offrir un vieux téléphone portable à clapet, vous savez celui dont la batterie durait une semaine sans que ça nous paraisse extraordinaire, de rejouer au Cap-là aussi ou de relire Petit Ours Brun. Est-ce qu'on idéalise le passé? Est-ce qu'on risque tous de sombrer dans la mélancolie? Ce soir, on ne va pas tourner en boucle sur le thème « c'était mieux avant », mais parfois on se dit juste que c'était pas mal.
Le téléphone sonne, 01 45 24 7000.
Bonsoir Claude.
Oui, je vous écoute.
Merci d'avoir appelé France Inter, c'est nous qui vous écoutons.
Ah, d'accord.
Vous êtes à l'antenne,
bon,
Claude.
Alors, la nostalgie, bien entendu, c'est un sentiment que j'éprouve très souvent. Je vais bientôt avoir 80 ans, alors autant vous dire que le passé me revient très facilement, d'autant plus que mon mari est décédé, j'ai mon fils aussi qui est décédé, donc ça fait beaucoup de moments à revivre. Il y a des moments où c'est difficile, surtout au moment des fêtes, des vacances, mais en même temps, on est bien obligé de poursuivre notre vie avec cette nostalgie. Et ce que je voulais ajouter aussi, c'est qu'on ne peut pas non plus répéter sans cesse que c'était mieux avant. Il y a des... je ne sais pas ce qui était vraiment mieux avant. Je ne sais pas. En tout cas, je trouve que les nouvelles technologies nous aident beaucoup dans nos déplacements, dans nos contacts. De ce côté-là, je trouve que c'est tout de même plus facile. Et personnellement, je trouve que chaque époque a ses particularités qu'il faut vivre avec les particularités d'époque.
Voilà. Claude, vous nous dites que c'était pas mieux avant, mais que vous êtes quand même dans une forme de nostalgie. Qu'est-ce qui vous rend nostalgique? C'est justement le souvenir de vos êtres chers qui ne sont plus là? C'est les souvenirs des temps passés ensemble? C'est aussi ce que vous faisiez à une autre époque que vous faites moins maintenant?
Ah oui, alors effectivement, il y a un petit peu ça, effectivement. On fait moins de choses, hein, ça c'est sûr. Je fais plus de sport comme avant. Je marche moins vite, je me déplace plus lentement. Mais la nostalgie, c'est plus effectivement la pensée de mes êtres chers. Alors je dois dire que je suis tout de même très entourée par mes filles et mes petits-enfants, et ça c'est un très grand soutien. Quand on se retrouve seul chez soi le soir, et c'est vrai que pour des personnes comme nous, le passage, comme les bébés, vous savez, le passage du soir est un moment difficile.
Eh ben, en tout cas, on est ravis de vous avoir en ligne, Claude. Merci d'avoir appelé France Inter dans le téléphone sonne. Et autour de la table du téléphone sonne, nous avons ce soir Thomas Dodman. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes historien, vous êtes chercheur à l'Université de Columbia aux États-Unis. Vous êtes en ce moment à Paris et on est ravis de vous avoir en studio. Vous êtes l'auteur du livre Nostalgie, histoire d'une émotion mortelle, publié chez Seuil. Et puis, nous sommes aussi avec Alexandra Vignol. Bonsoir.
Bonsoir.
Enseignante, chercheuse et directrice de la pédagogie à l'INSEC, Institut des hautes études économiques et commerciales. Avec vous, on parlera plutôt de la nostalgie sous un angle marketing. Vous avez fait, je crois, une thèse sur le sujet. On y reviendra. Un commentaire, Thomas Dodman, sur ce que nous dit Claude. Il y a un mélange de le temps qui passe, peut-être une série de disparitions qui est lourde évidemment à porter. Ça, c'est un côté nostalgie. On est presque déjà dans une forme de mélancolie qui est connoté plus péjorativement, si on doit définir un petit peu les termes là en début d'émission.
Oui, tout à fait. Dans l'intervention, il y a un petit peu des deux. Il y a à la fois la mélancolie de la perte, mais il y a aussi le ressourcement du souvenir. Quand on parle de nostalgie, on parle souvent d'une émotion ou d'un sentiment qui est aigre-doux, ce qui est à la fois un petit peu la souffrance, mais aussi un sentiment bénin de ressourcement dans ce qu'on en a perdu et dans les retrouvailles, notamment avec des membres de la famille ou avec des souvenirs d'enfance. Il y a une très belle phrase qui peut-être donnera du courage à Claude, de Pier Paolo Pasolini, qui disait « La connaissance est dans la nostalgie, qui ne s'est pas perdu ne se connaît pas. » Et je pense que parfois, la nostalgie peut avoir, dans la souffrance et dans la douleur, peut avoir un ressort positif, justement, pour sortir de cela.
Oui, parce que les exemples la liste quasiment que je faisais de toutes ces choses qui renaissent, que ce soit des émissions de télé, que ce soit, on va parler même de choses qui existent encore, hein, les BN, les Malabar, les Carambars, les Flambis, tout ça évoque des souvenirs d'enfance aussi, parfois. Là, on n'est pas dans quelque chose de négatif quand on a envie de retrouver ça ou de retrouver une vieille console de jeu.
Tout à fait. Aujourd'hui, les psychologues parlent d'un sentiment bénin, d'une émotion plutôt positive qui permet un ressourcement, qui donne un sentiment d'ancrage, d'identité aussi. La nostalgie est très fortement liée à l'identité. Ça n'a pas toujours été le cas. Nous pourrons peut-être y revenir.
Oui, et j'aimerais avoir aussi votre définition à vous, Alexandra Vignol, de la nostalgie et comment vous la différenciez peut-être, s'il faut le faire, de la mélancolie.
La définition est très juste, hein. On parle de réaction affective, d'où sa mère, parce que à la fois on a des émotions positives en repensant à des souvenirs agréables, mais en même temps on sait qu'on ne pourra jamais retourner à cet état, d'où l'aspect amer. Et à la différence de la mélancolie, il n'y a pas toujours cette dimension négative de tristesse. On peut avoir une nostalgie très joyeuse.
Une nostalgie très joyeuse. Donc vous vous rejoignez aussi sur ce point, Alexandra Vignol et Thomas Dodman. Thomas Dodman, vous avez écrit ce livre « Histoire d'une émotion mortelle » autour de la nostalgie. Est-ce que ça a toujours existé, la nostalgie, ou est-ce que ça a été quelque part inventé ou développé, peut-être travaillé?
Tout à fait. La nostalgie n'a pas toujours existé. C'est un exemple parfait de l'historicité des émotions. Nos émotions que nous avons tendance à croire ont toujours été là, en fait, n'ont pas forcément toujours été là. La nostalgie est une invention de la fin du XVIIe siècle, très exactement en 1688, quand
Vous avez mis une date sur le début de la nostalgie.
C'est pas moi qui l'ai mise, c'est un jeune médecin, un jeune étudiant en médecine qui a 18 ans à l'époque, qui s'appelle Johannes Hofer, qui est étudiant en médecine à l'université de Bâle, et qui invente le mot de nostalgie. Il forge un néologisme, donc des racines grecques, nostos, au retour au pays, et algos, souffrant ou douleur, pour saisir ce que lui considère être une pathologie, une nouvelle pathologie qu'il observe chez des patients et dont il veut essayer de faire le profil médical avec les causes, les remèdes possibles, et pour essayer de cerner une nouvelle pathologie qu'il définit d'emblée comme étant une forme spécifique de mélancolie. Donc on est dans le registre de la mélancolie qui existe depuis très longtemps, depuis l'Antiquité, mais quand on parle de nostalgie, il faut faire attention parce que c'est une invention de la modernité. Ulysse, par exemple, n'est pas nostalgique, même si évidemment il a le regret de sa chère Ithaque dans l'Odyssée. Oui. Il ne parle jamais de ça, ou on ne parle jamais de sa nostalgie, parce que le mot n'existe tout simplement pas. Donc l'historien des sensibilités se doit d'essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'à la fin du XVIIe siècle, on considère qu'il est nécessaire d'inventer une nouvelle pathologie émotive.
Votre commentaire, Alexandra Vignol, sur cette historicité, sur ce... On retrace là le chemin de la nostalgie, parce que c'est vrai que spontanément, moi j'imaginais que la nostalgie, ça, c'est de tout temps. C'est-à-dire qu'on s'est toujours dit, pas c'était mieux avant, mais ah, c'était bien quand j'étais plus jeune, ah, c'était bien quand j'ai fait ça, même la semaine dernière, parfois on est nostalgique de la semaine dernière, Alexandra Vignolle.
C'est possible. Alors pour moi, la nostalgie a de tout temps existé. Mais là où je rejoins Thomas, c'est que nous n'avions pas nommé ce sentiment, cette émotion, cette réaction affective. Et donc, Ulysse en est le parfait exemple. On n'arrivait pas à mettre un nom sur ce mal du pays, sur les fameuses racines, hein, Nostos et Algos. Nostos, le pays, Algos, la douleur. Et c'est là où Hofer, effectivement, avec sa thèse de médecine, invente ce nouveau mot et met enfin en mots une maladie, un mal du corps.
Une maladie du corps. Alors, je vais citer un message qu'on a reçu par WhatsApp au 01 45 24 7000. Eric qui nous dit « J'aurais tant voulu vous envoyer un billet par pigeon voyageur pour vous dire qu'aujourd'hui, la nostalgie n'est plus ce qu'elle était. » J'aime beaucoup l'ironie d'Eric qui nous écrit à France Inter. Et pour se mettre dans une autre forme de nostalgie, on va écouter une petite guirlande de sons qui nous ramène à une télé, peut-être ancienne, peut-être actuelle. Alors c'est quasiment un blind test hein, derrière votre radio ou ici dans ce studio. Est-ce que Thomas Dodman, Alexandra Vignolle, vous avez reconnu certains des génériques de différentes chaînes de télévision françaises qu'on vient d'entendre ?
Alors moi,
allez-y, tous les deux en même temps. Allez-y, Alexandra peut-être.
Alors, la Star Academy en
dernier. Oui, ça c'était le dernier. Allez-y, vous, Thomas Dodman.
Ah ben là, je révèle que je ne suis pas vraiment français, et que je n'ai pas grandi en France, et donc du coup, je n'ai pas ces références culturelles.
Après, chacun a aussi ses émissions de télé, et vous en avez sans doute plein d'autres dans les oreilles, mais effectivement, on a entendu le générique d'Un gars, une fille, Fort Boyard, Les Guignols de l'info, Star Academy. J'ai pris ces quatre exemples, puisque bah, Un gars, une fille, c'était une série avec Alexandra Lamy, Jean Dujardin, une série de d'humour court qui n'existe plus, mais qui est rediffusée abondamment. Star Academy, c'était une émission emblématique des années 2000 qui a disparu, qui est revenue il y a maintenant 3 ans et qui cartonne. Fort Boyard, ça j'ai envie de dire, ça existe un petit peu de tout temps, ça fait bien 30 ans et ça continue. Et Les Guignols de l'info, là c'est une émission qui a disparu. Vous qui êtes l'experte du marketing, Alexandra Vignolle, qu'est-ce qui fait qu'on a comme ça, là par exemple dans le monde de la télé, des choses qui disparaissent, éventuellement qui réémergent ou qui sont rediffusées?
Alors je crois que ce qui est passionnant, c'est que ces émissions, si des personnes les ont connues plus jeunes, et qu'elles reviennent 10 ans, 15 ans, peut-être 20 ans après, eh bien on a envie de les partager avec les enfants, les petits-enfants. Et enfin, on se retrouve tous devant un écran. On n'est plus chacun devant son smartphone, sa tablette, son ordinateur, mais on a envie de partager ce moment ensemble.
On va retourner au standard, rejoindre Dominique qui nous a appelé. Bonsoir Dominique.
Oui, bonsoir.
On vous écoute.
Ouais. Voilà, ben moi c'était sur un sujet, c'est par rapport à la voiture, quoi. Et je trouve que, ben, effectivement, je suis bien nostalgique d'avant, des voitures d'avant. Et je roule avec une vieille voiture d'ailleurs, et j'ai pas du tout envie de ce qu'il y a maintenant. Parce que je trouve que c'est, même esthétiquement, c'est. Enfin. Voilà.
C'est quoi les voitures d'avant? Celles qui vous rendent nostalgique en l'occurrence?
Bon, ben c'est les années 80-90. Puis bon, un petit peu avant aussi. Quand j'étais, bon, j'ai un petit peu plus de 60, j'ai 66 ans. Mais dans ma jeunesse, j'ai roulé avec une DS, mais pas les DS de maintenant.
Oui.
Et c'est vrai que voilà, et j'adore regarder les vieux films où il y a toutes ces voitures-là et que j'ai connues à l'époque.
Vous avez quel âge, vous, Dominique?
66 ans,
les voitures des années 90. Donc effectivement, ça nous ramène à peut-être quand vous avez eu votre permis.
Oh ben, j'ai bien avant, parce que j'ai eu à 18 ans, vous voyez, ça fait c'est bien plus longtemps que ça.
Qu'est-ce que vous aimiez, ou qu'est-ce que vous aimez encore toujours plutôt, dans ces vieilles voitures, dans ces voitures des années 80-90?
Eh ben, c'est qu'elles avaient toutes quelque chose de particulier. Maintenant, je trouve qu'elles se ressemblent toutes. Alors qu'à l'époque, je ne sais pas, il y avait vraiment une esthétique particulière pour chaque modèle. Puis c'était, voilà. Puis après aussi, le fait de rouler, bah, ça posait pas forcément de rouler très vite, et voilà, et puis, et bon, les odeurs, tout ce qui se rattache à, voilà, un peu à cette époque-là, et j'aime bien retrouver ça quand je roule.
tout cet univers sensoriel, les odeurs, les bruits sans doute aussi, parce qu'évidemment les voitures d'il y a 35 ans font un bruit qui est un ronronnement parfois agréable et chatoyant à l'oreille. Je vous voyais réagir un petit peu, Thomas Dodman, qu'est-ce que ça vous inspire, cette nostalgie des voitures?
Oui, vous l'avez très bien dit, c'est tout un univers sensoriel qui va avec, donc c'est pas tellement un jugement esthétique, même s'il y a ça aussi, et je suis tout à fait d'accord avec Dominique, les voitures étaient bien plus belles avant, mais c'est surtout ce qui enclenche le mécanisme, la réaction nostalgique, c'est surtout tout ce que l'on associe à ces voitures-là de cette époque-là. Le permis, les débuts de la conduite, les personnes avec qui on a pu rouler, et tout l'univers sensoriel, les odeurs, le toucher de ces produits de cette époque-là qui sont associés à une phase de notre vie. Donc dans la nostalgie, il y a une mobilisation de mémoriel qui est souvent un peu flatteuse aussi, c'est-à-dire qu'elle est sélective.
Excellente question. Est-ce qu'on se fait des idées sur ce dont on est nostalgique?
Alors oui, inévitablement, et encore une fois, je rejoins Dominique tout à fait sur le jugement esthétique, mais en général, quand on se souvient de manière agréable de choses du passé dont on est nostalgique, c'est parce qu'on oublie un petit peu les choses, les côtés plus négatifs.
Pas de clim dans la DS, Dominique.
Il n'y avait pas de clim, par exemple. Les amortisseurs n'étaient pas tout à fait aussi performants à cette époque-là.
Il fallait surveiller le compteur en permanence. On n'avait pas de régulateur ou ce genre de choses.
Bon. Exactement. Et ça, c'est une des forces, mais aussi des dangers du souvenir nostalgique, c'est que c'est un souvenir sélectif qui, souvent, embellit un petit peu le passé.
Alors, Alexandra Vignol, vous avez fait, si je ne me trompe pas, une thèse sur le sujet influence de la perception nostalgique sur l'attachement à la marque. Alors là, il se trouve qu'on la cite parce que c'est celle qu'a citée notre auditeur Dominique, DS, qui est devenue d'ailleurs une marque à part entière, mais on pourrait citer des vieilles Peugeot, des vieilles Renault, des vieilles Citroën, des vieilles Volkswagen ou Mercedes, c'est comme ça, j'ai cité 5 marques et on est bien. Alexandra Vignol, comment vous l'analysez, cette nostalgie autour du monde de la voiture, qui est un univers, pour le coup, où la nostalgie d'un côté, la force des marques de l'autre, est extrêmement forte?
Et oui, on le sait, il y a une période sensible autour de 20, 25 ans, le permis, la liberté, qui fait qu'on va associer, hein, comme l'a dit Thomas, des moments très positifs à une voiture, une marque. Et on le sait, aujourd'hui, les marques utilisent les techniques de rétro-branding ou encore de rétro-marketing et vont chercher dans le passé. Alors, je vais citer des marques à mon tour.
Allez-y.
Mini, Renault, Fiat, avec la Fiat 500, etc. Toutes les marques s'y sont mises.
Oui, Renault, il y a la Renault 5, la Renault 4 qui sont ressorties, version électrique.
Exactement. Et ça va venir toucher la corde sensible. Et même si ce n'est pas forcément un Dominique qui va acheter la voiture rétro-brandé, des consommateurs vont se dire « Ah oui, je me souviens, je l'ai vu dans un film, je l'ai vu dans un clip, mon père, mon grand-père en a eu une, on m'en a parlé ». Et c'est beaucoup plus facile de relancer, d'en parler et de la faire connaître.
On retourne, avant de retourner au standard, comment est-ce que les marques, que vous connaissez bien, j'imagine, Alexandra Vignol, peut-être qu'elles vont vous poser quelques questions, demander quelques conseils, comment est-ce qu'elles travaillent sur cette corde sensible-là? Qu'est-ce qui fait que, pour reprendre l'exemple de Renault, par exemple, avec le retour de la Twingo, la Renault 5, la Renault 4, ils se disent, ces marques-là, ces figures iconiques-là, elles peuvent avoir un potentiel de retour dans les années 2020 sans que ça fasse réchauffer.
Alors, pour éviter le sentiment de réchauffer, on va bien sûr aller chercher des modèles qui sont aujourd'hui iconiques. Et des modèles qui ont marqué leur époque.
Et c'est quoi un modèle iconique? Parce que parfois, des voitures se vendent à de très nombreux exemplaires, mais ils ne sont pas plus iconiques que ça, et ça peut être l'inverse, évidemment.
Alors, prenons la Fiat 500, il y a eu le Grand Bleu, et puis c'était un modèle hyper mignon, hyper chou, tellement associé à Rome, à ses petites rues. Et la relancer 50 ans plus tard, on reprend les codes. Un modèle de petite taille, des yeux arrondis, une bouille charmante. Et évidemment, on a tout le confort d'aujourd'hui. On a la clim, on a la sécurité, on a tout ce qu'il faut. Et ça fonctionne, parce qu'évidemment, on a entendu la marque, on en a entendu parler. Et les bons codes sont repris. DS, et comme nous le disait Dominique, j'ai conduit l'ancienne DS, j'ai conduit le modèle original, le modèle du président. Et évidemment, quand DS revient, on reprend quelques codes, mais pas tout. Et puis, ça devient une marque à part entière, ça devient la marque premium de PSA à l'époque, Stellantis aujourd'hui.
On va retourner au standard, rejoindre Stéphane. Tout à l'heure, je parlais de vacances. Bonsoir Stéphane.
Oui, bonsoir.
Ça rime avec votre question.
Oui, alors, en fait, moi, j'avais une anecdote pour montrer le côté universel de ce sentiment. Donc, nous sommes en famille, on fait un séjour de plusieurs semaines à l'étranger. La veille du départ, pour retourner en métropole, on a une soirée au restaurant. Et en sortant du restaurant, le gars, mon fils de 6 ans, il me dit, papa, je ne sais pas pourquoi, genre j'ai pas été grondé, j'ai pas fait de bêtises, mais je ne sais pas pourquoi, j'ai envie de pleurer. Voilà. Il savait qu'il avait quitté cet endroit qu'il avait bien aimé, et voilà, et j'ai envie de pleurer. La nostalgie, déjà à 6 ans.
Ah ça, la fin des vacances, c'est quelque chose de terrible. Est-ce que c'est de la mélancolie ou de la nostalgie? Et vous en avez parlé un peu avec lui? Vous lui avez dit quoi? Comment est-ce que vous avez pris en compte cette émotion-là?
Eh bien, en fait, sur le coup, j'ai d'abord été un peu surpris. Qu'est-ce que ça voulait dire? Puis après, j'ai compris qu'effectivement, ça y est, il regrettait par avance son départ, retrouver le pays un peu plus froid, enfin, etc. Enfin, il avait bien aimé. Et donc, ce que j'ai trouvé amusant, c'est ce côté un peu universel. On n'a pas besoin d'être tous les exemples qu'on a, on prend des adultes, voire des anciens. Mais non, déjà à 6 ans, on peut avoir déjà ce sentiment universel.
Bah, ce sentiment, c'est celui qu'évoque Brigitte Bardot dans La Madrague. On a rangé les vacances dans des valises en carton et c'est triste quand on pense à la saison du soleil et des chansons. Voilà pour Brigitte Bardot. Merci Stéphane de nous avoir appelé. Comment est-ce que vous analysez ce ressenti, Thomas Dodeman? Est-ce que là, on est dans de la nostalgie, les vacances qui sont en train de se finir? On est encore dedans, on devrait encore profiter de, je sais pas, de la douceur d'un soir d'été, des étoiles, de la beauté du restaurant où on est. C'est de la mélancolie? On est déprimé par avance de la rentrée?
Non, je ne pense pas qu'on soit déprimé par avance de la rentrée. Certes, on anticipe un petit peu sur la perte de la liberté, des beaux jours qui vont avec les vacances. Mais il y a aussi du coup un effet de surestimation peut-être du bonheur qui devrait être associé avec les vacances. Et on a l'impression du coup de n'avoir pas profiter pleinement. Oui. Et je pense à Noël, par exemple. Noël est un moment souvent associé à la nostalgie. C'est un moment où on se retrouve en famille, où les adultes regoutent un petit peu au plaisir de l'enfance quand on se lève le matin, on découvre les cadeaux sous l'arbre, le sapin, etc. Mais c'est aussi un moment qui met une surenchère sur l'importance de ne pas rater son Noël. Il faut que ce soit bien, il faut que le repas soit parfait, il faut que les cadeaux... On se met une pression de dingue. Et souvent, du coup, on finit par ne pas être complètement satisfait, pas être complètement content. Et il y a des personnes qui sont assez contentes à la fin des vacances de repartir travailler, par exemple, pour échapper à cette pression-là. Donc les moments des vacances, les moments des retrouvailles, des fêtes, sont des moments très intensément nostalgiques. Et là aussi, c'est un petit peu à double tranchant.
On va parler dans un instant, parce que vous en parlez assez en détail dans votre livre, du lien entre la nostalgie et la politique, la façon éventuellement dont on peut s'en servir à des fins politiques. Mais d'abord, on va revenir à la totale pop culture et on va écouter cette chanson. Je crois que vous la connaissez souvent assez bien. Voilà, Born to be Alive, c'est une chanson de Patrick Hernandez qu'on entend beaucoup dans la tournée, notamment Star 80, qui joue cette tournée sur la nostalgie. Bah, Patrick Hernandez, il est avec nous ce soir. Bonsoir Patrick Hernandez.
Bonsoir à tous.
Merci d'être en direct sur France Inter en ce jour de Noël. La nostalgie, c'est un peu ce qui fait vivre tous les artistes. Une fois qu'on est au-delà de la sortie immédiate de leur titre, de leur tube, et que ça devient un peu du passé, comment vous regardez, comment vous jugez ce sujet? Est-ce que c'est votre gagne-pain aujourd'hui, la nostalgie, Patrick Hernandez?
Alors écoutez, pour être très très honnête, la nostalgie sur Star 80, c'était les premiers temps, les trois premières années.
Donc on est dans les années 2010, ça commence déjà.
Alors 2007 en fait, nous allons bientôt fêter les 20 ans de la tournée.
On va être nostalgique du début de la tournée Star 80.
Et donc à ce moment-là, effectivement, ça joue beaucoup sur la nostalgie. Après avoir fait le premier film avec Thomas Langman, le film Star 80, ça a ouvert la porte à toutes sortes de générations, des quadras, des trentenaires, des très jeunes, des enfants. Et honnêtement, là, on est plus vraiment sur la nostalgie.
Oui.
Donc, on est vraiment sur autre chose aujourd'hui, depuis presque 20 ans maintenant. L'année prochaine, ça fera 20 ans, quoi.
Et comment vous analysez le fait... Alors, ça fait 20 ans parce que ça a cartonné. Comment est-ce que vous analysez le succès des débuts, Patrick Hernandez ? Il y avait un besoin de retourner aux années 80, quand on était en 2007 ?
Oui, alors, en étant un peu vachard, c'est vrai qu'on a fait des titres qui sont devenus inoxydables avec le temps. et c'est en fait une génération de titres. Je vous signale qu'on a été jusqu'à 19 sur cette tournée Star 80. Et il n'y en a pas un qui chante la même chanson que l'autre. Il y avait une diversité dans notre programmation qui était incroyable. Et ce sont tous des titres qui sont, pratiquement tous, hein, qui sont dédiés à la fête, qui sont dédiés à la bonne humeur, à la positivité. Donc voilà, je pense que c'est ça qui...
Alors on va les citer, hein, les titres, Patrick Hernandez, au-delà de Born to be Alive, il y a Macumba, Jean-Pierre Madère, il y a Femme libérée, Cooking Dingler, les démons de minuit, Image, L'amour à la plage de Niagara, Nuit de folie de début de soirée. Tout ça, effectivement, célèbre la fête. Donc la fête des années 80, on a envie de la faire en 2007, en 2025, 2026 bientôt.
Et c'est le dernier mouvement, je pense. Aujourd'hui, on fait moins de musique qui concerne la fête. Donc, en fait, les gens vont encore puiser dans ce répertoire pour faire la fête. Moi, j'ai une fille qui a 19 ans qui m'avoue qu'effectivement, quand ils font des fiestas entre jeunes, ils ont besoin de Macumba, ils ont besoin des démons, ils ont besoin de Born to be Alive. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de belles chansons aujourd'hui, bien évidemment. Mais la musique dédiée à la fête, pour l'instant, ben, il n'y a pas de renouveau, ou très peu. En tout cas, chez nous.
Cette chanson, vous l'aviez... elle avait été écrite en 1973. Elle est sortie un peu après, 78, elle n'est jamais sortie des playlists, elle est revenue donc dans cette tournée Star 80 et même à la cérémonie d'ouverture des Jeux Paralympiques de Paris 2024. Alors c'était pas vous qui l'interprétiez, mais quand même, ça dit aussi cet hommage, parce que les cérémonies d'ouverture de Paris 2024, c'était globalement un hommage aussi parfois nostalgique à tout ce qui faisait la grandeur de la France.
Oui, il faut pas oublier en plus que Born to be Alive est un message de positivité. C'est un message, en fait, je me suis pas rendu compte à l'époque de la portée, entre guillemets, philosophique de la chose. Mais en fait, c'est quelque chose qui veut dire beaucoup pour beaucoup de minorités. Moi, je m'en suis aperçu quand j'étais aux États-Unis. Les minorités résonnaient très très fort sur cette chanson et en fait ça véhicule un message de positivité qui est encore aujourd'hui omniprésent, et je pense que même sans parler de nostalgie, quand on entend cette chanson, on a envie de faire des choses, on a envie de bouger, on a envie de danser, on a envie en fait de s'ouvrir, quoi.
On va la réécouter d'ailleurs. Merci beaucoup, Patrick Hernandez, d'avoir été en direct avec nous dans Téléphone Sonne ce soir, Born to be Alive. Alors, cette tournée Forever Star 80 avec Sabrina, Jean-Pierre Madère, Émile et Images, Zouk Machine et d'autres, à partir du 6 mars dans toute la France, mais aussi en Suisse. Et puis, le 14 avril à l'Accord Arena de Paris. Voilà, ça c'est dit. Je me tourne vers Alexandra Vignol. Qu'est-ce que ça dit, le succès de Star 80 ou de Born to be Alive ? On était avec Patrick Hernandez en direct à l'instant. Parce qu'il y a aussi des jeunes qui écoutent ça, ou qui vont à ce genre de concert, qui vont à la tournée de Starmania il y a quelques temps à Paris, alors qu'ils ne sont pas nés dans les années 60-70. Ils n'ont pas connu le premier Starmania de Michel Berger et Luc Plamondon. On arrive à être nostalgique d'une époque qu'on n'a pas connue.
Et oui, c'est absolument possible. On va aller chercher ces chansons qui ont marqué leur époque. On va se les approprier. On va vivre des soirées. Et je pense que ce que les gens cherchent, quel que soit leur âge dans ces concerts, c'est le partage intergénérationnel, des chansons dont les paroles sont faciles à chanter. C'est pas une musique élitiste, mais c'est une musique extrêmement joyeuse.
Thomas Dodman.
Oui, et puis il faut tout simplement dire aussi, la nostalgie est un formidable réservoir de création artistique, que ce soit dans la musique, que ce soit dans la poésie, que ce soit peut-être moins dans l'art, mais c'est sujet à débat. Mais ça a toujours été un extraordinaire, une ressource vraiment pour les artistes.
On puise, et d'ailleurs ce que vous dites, ça me fait penser à tous les débats autour de l'intelligence artificielle. On va s'éloigner un petit peu, mais c'est vrai que quand on demande à l'IA de générer quelque chose, elle va puiser dans ce qu'elle connaît. carnet. Donc, exactement. Quelque part, l'IA est par essence nostalgique.
Exactement, exactement. Et la mode l'est aussi. Tout, la nouveauté de la mode n'est toujours qu'un recyclage d'une ancienne nouveauté, recomposée avec une autre nouveauté aussi. Donc, on est constamment dans l'hybride, dans la réutilisation. C'est là où il faut distinguer peut-être entre une nostalgie plus créative, une nostalgie plus ouverte, qui émancipe aussi peut-être, et une nostalgie plus régressive, qui est une nostalgie qui pense une essentialisation du passé perdu et auquel il faudrait revenir absolument, tout en oubliant que ce passé est une invention et souvent un mythe.
Un peu fantasmé. Amélie est au standard de France Inter. Bonsoir Amélie.
Bonsoir.
On vous écoute.
Eh bien écoutez, je voulais simplement dire que moi je suis nostalgique d'un temps sans smartphone. J'ai 35 ans, j'ai vraiment vu l'avènement des smartphones et je trouve que la société était bien différente sans smartphone. Dans les espaces publics, on pouvait discuter plus facilement et je revois aussi certaines séries, films et on voit que la société était très différente au travers de ces films ou séries.
Et je vois Thomas Dodman qui a tout de suite envie de vous répondre.
Bah je partage ce sentiment-là et je constate qu'aujourd'hui, dans la jeunesse dont font partie mes enfants, il y a aussi une certaine nostalgie d'un monde qu'ils n'ont pas connu, celui de l'avant-smartphone, que l'on voit par exemple dans l'extraordinaire succès de la série Stranger Things qui se passe aux États-Unis dans les années 80 et où la jeunesse d'aujourd'hui découvre une jeunesse d'avant où il n'y avait pas de smartphone par exemple et où l'on peut voir d'autres formes de relations interpersonnelles, d'autres formes d'interagir les uns avec les autres. Donc je pense que c'est partagé aussi par les jeunes générations dans un certain sens aussi.
Mais là encore, je m'adresse de nouveau à Amélie si vous êtes toujours en ligne. Est-ce qu'il n'y a pas une part de... Vous disiez, je le vois dans des films, etc. Est-ce qu'on ne fantasme pas? Est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'on se fait une idée, Amélie, de ce qu'était ce monde d'avant les smartphones, où c'était aussi parfois une sacrée galère pour se retrouver, pour se déplacer, pour se contacter?
Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup plus de facilité aujourd'hui, mais il y avait plus de magie, je pense, et que ça, on ne le fantasme pas. Il y avait plus d'improvisation. C'était quand même différent et plus spontané, en fait. Donc, voilà.
Et d'ailleurs, dans ma liste d'objets qui sont un peu du monde de la nostalgie, je mettais le Minitel, le Walkman, les cassettes audio, les magnétoscopes, les appareils photo jetables et puis les cabines téléphoniques qui, là, ont complètement disparu. Alors qu'on trouve, j'ai vu ça récemment en faisant des courses de Noël, on trouve des appareils photo jetables, on peut encore en acheter aujourd'hui.
Le Walkman revient aussi.
Le Walkman et le Polaroid, évidemment. Alors là, ça fait 15 ans qu'il est revenu en grande force. On est aussi au standard avec Fred. Bonsoir, Fred.
Oui, bonsoir.
Quelle est votre question ?
Alors j'aimerais savoir, je vous écoute depuis tout à l'heure là et je suis moi-même nostalgique des années 80-90, j'ai 53 ans, beaucoup de monde est nostalgique des années, peu importe, 60-70-80-90, alors j'aimerais savoir est-ce qu'on est nostalgique d'une époque, c'est-à-dire sur un calendrier, ou est-ce qu'on ne serait pas plutôt nostalgique de nos plus belles années, en fait, nos années 20 ans, 30 ans, où on avait plein de projets, on était immortels, on avait les hormones en ébullition, et on avait tout à construire.
Très bonne question autour des hormones en ébullition, Fred, merci de nous avoir appelé. C'est une très bonne question, parce que c'est vrai que moi j'ai l'impression que les années 80, elles étaient déjà à la mode dans les années 2000. On est dans les années 2020 aujourd'hui. Donc on était 20 ans en arrière, là on est 40 ans en arrière, mais les années 80, elles scintillent toujours. Est-ce que, pour rejoindre la question de Fred, c'est toujours on se projette sur une époque d'il y a 30 ou 40 ans, ou l'époque de quand on était jeune, ou est-ce qu'il y a certaines époques qui ancre plus un imaginaire, un souvenir collectif?
Un peu des deux, en effet. On peut tout à fait montrer qu'il y a un sentiment de « c'était mieux avant » qui remonte très très loin dans le temps. C'est peut-être une valeur universelle de l'humanité, en tout cas, que l'on peut retrouver. Mais c'est vrai aussi qu'il y a des époques, et notamment l'époque contemporaine, dans notre modernité, qui vont cristalliser un sentiment de nostalgie autour de une perte de repères. C'est une des caractéristiques du monde contemporain, du monde moderne, où les choses changent très très vite et où les gens se sentent un petit peu perdus. Et notamment aussi à cause de crises économiques qui se succèdent depuis un certain nombre d'années et qui font que les années 80 ressortent beaucoup comme, dans l'Europe occidentale en tout cas, un dernier moment, c'est la fin des 30 Glorieuses, c'est la fin d'une période de l'après-guerre plus positive, où on avait l'impression de vivre mieux. Après, il y a eu tout un tas de... Voilà, l'histoire s'est réaccélérée, il y a eu des crises, il y a eu des guerres qui font qu'on a, on a un petit peu perdu notre innocence que l'on pouvait avoir dans, les années 80. La première grande phase de nostalgie date plus vraiment des années 70, on va dire. Donc c'est à partir des années 70 que la nostalgie devient un phénomène sociologique.
Et on aurait vite fait de rapprocher ça au choc pétrolier de 73, au choc pétrolier, 79, voilà, exactement. La fin des 30 glorieuses, même si c'était peut-être un raccourci. Mais
tout à fait, c'est un raccourci parce que là aussi il y a une idéalisation de la de période facteurs. Avant. Mais c'est vraiment le moment où l'on commence à sentir ce qui, je pense, est le sentiment très commun aujourd'hui, c'est-à-dire que la promesse de progrès que nous avons avec nous depuis le 18e siècle, c'est-à-dire l'idée que l'on va vers mieux, que les choses vont s'améliorer. Cette promesse de progrès peut-être s'enraye, peut-être commence elle s'effrite un peu. Et ça, c'est un sentiment qui est très répandu aujourd'hui, qui se renforce aujourd'hui. On le voit dans les sondages qui, chaque année, nous rappellent, en fin d'année, le sondage IFOP nous rappelle que les Français pensent que voilà, les choses étaient mieux avant. Oui. Et c'est sans doute lié à cette perception voilà, d'un progrès qui s'est enrayé et qui n'est plus partagé comme avant et les gens ne peuvent plus en profiter autant.
Je voulais qu'on parle un peu de politique parce que dans votre livre, vous parlez de les politiques, et là, à l'instant, vous venez de le faire aussi, entre le « c'était mieux avant », les politiques qui promeuvent le retour aux traditions, à toutes époques, des époques troubles comme des époques actuelles. On pourrait même se dire que, ce qui se passe du côté de l'Est, avec la Russie, l'Ukraine, et peut-être le retour à une grande Russie, est-ce qu'il y a des promesses autour de la nostalgie, en attisant la nostalgie chez des électeurs ou chez des peuples, qui forgent ce qui peut se passer dans le monde politique et géopolitique ?
Absolument. Si la nostalgie peut être une émotion très positive, très bénigne à l'échelle individuelle ou dans le monde de l'art et de la culture, c'est malheureusement une émotion très dangereuse dans le monde de politique. C'est un formidable levier politique pour fédérer des ressentiments, comme ceux que l'on peut ressentir pour des raisons plus ou moins légitimes aujourd'hui, autour d'un bouc émissaire, autour d'un ennemi désigné et qui est rendu responsable pour le fait que aujourd'hui les choses ne vont pas aussi bien qu'elles n'allaient hier. Oui. Et c'est de là, à partir de là, que s'enclenche le mécanisme de la politique de la nostalgie, dont l'exemple le plus éclatant est sans doute celui du Make America Great Again de Donald Trump, le pays où je vis.
Tout est dans le again, c'est-à-dire
tout
le
est
à
dans
nouveau.
Le again. Tout est dans le again. Il faut rétablir une grandeur passée. Alors c'est un discours que l'on retrouve évidemment partout en Europe, à travers le monde. Il faut rétablir une grandeur passée, une grandeur qui garantissait à tout le monde un bien-être, et pour faire cela, il faut trouver les responsables du fait qu'il n'y a plus ce bien-être, que les gens ne sont plus
donc
aussi...
Donc là, la nostalgie amène à chercher un bouc émissaire.
Et donc là, la nostalgie amène à chercher un bouc émissaire. C'est quelque chose que l'on retrouve évidemment beaucoup dans des discours d'extrême droite, mais pas que, on peut les retrouver à gauche aussi. Et c'est une vraie politique pernicieuse dans ce cas-là, et donc ça rejoint ce que je disais avant sur une nostalgie qui serait restauratrice, qui tenterait de restaurer un état qui existait avant, et qui souvent est tout à fait fantasmé.
Et là, dans ce que vous venez de dire, on comprend mieux aussi le titre de votre livre, Histoire d'une émotion mortelle autour de la nostalgie. Ce livre est publié chez Seuil. On va faire encore un détour par le Standard où nous attend Fabienne. Bonsoir Fabienne.
Oui, bonsoir.
On vous écoute.
Moi, je n'ai pas de questions, mais plutôt un témoignage. Oui. J'étais au cinéma il y a quelques temps, je me souviens d'ailleurs plus du film, mais à la fin du film, j'ai entendu une musique, Les Pêcheurs de Perles, chanté par Tino Rossi avec un grésillement sur le micro-sillon, et tout à coup je me suis mise à pleurer. Je suis étonnée qu'une musique puisse ramener des souvenirs comme ça, puisse susciter autant d'émotions, et ça m'a reconnectée à ma mère, à ma grand-mère, avec la nostalgie de l'insouciance, de l'histoire de ces femmes, tout ce qu'elles ont vécu, tout ce que j'ai vécu, tout ce auquel on n'est pas préparé. On n'est pas formaté pour vivre ce qu'on a à vivre, et donc ce qui m'a ramené à l'insouciance et à la nostalgie de l'insouciance.
Et je me tourne vers Alexandre Avignol. Merci beaucoup Fabienne de nous avoir rappelé la force de la musique, on y revient à nouveau, hein. Elle est extrêmement puissante dans tout ce qu'on décrit dans le cinéma, dans le marketing aussi.
Oui, absolument. La nostalgie peut jouer sur tous les sens. La musique, une odeur, un parfum, un bruit même. Le tic-tac de l'horloge chez notre grand-mère. Et la musique est un vecteur extrêmement puissant pour nous ramener dans un passé idéalisé ou réel. Dans tous les cas, ça fonctionne extrêmement bien.
Merci beaucoup Alexandra Vignol, merci à vous aussi Thomas Dodman de nous avoir accompagnés dans ce téléphone sonne de Noël qu'on a essayé de faire nostalgique mais pas mélancolique. L'équipe du téléphone sonne cette semaine, Alix Barrois et Ludovic Asselot à la réalisation, Cécile Bidot à la rédaction en chef et à la programmation, il y avait Amaury Baucher, Laura Dumez et Ryan Saibi. Merci aussi à l'équipe du Standard et voici la question des petits bateaux.
Je m'appelle Lola, j'ai 10 ans, j'aimerais bien savoir si les Égyptiens mangeaient allongés ou assis. Merci.
Très bonne question, les Égyptiens mangeaient-ils allongés ou assis ? Réponse dans un instant.